Les colloques du Collège de France.
Nous voici de retour et donc, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons accueillir maintenant Diane Baudard, qui est encore professeure titulaire de la chaire d'histoire de l'art de la Renaissance italienne David Rosen à l'Université Columbia de New York, au département d'art et d'archéologie, mais qui sera bientôt avec nous pour toute sa carrière à venir, puisqu'elle sera titulaire de la chaire Histoire des arts dans l'Europe de la première modernité au Collège de France. Donc, vous aurez l'occasion de la voir et de rejoindre ses cours pour un très grand nombre d'années. Et le titre de son exposé, c'est « Le droit d'image des souverains étrangers dans la Rome des papes, 16e-18e siècle ». Merci Diane.
Merci Pierre-Michel Menger pour l'invitation à ce colloque. Je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui et je m'excuse pour cette voix assez vilaine que j'ai aujourd'hui. J'espère que cela ne sera pas trop difficile de me suivre. La relation entre droit et image a attiré beaucoup d'attention en ces dernières années et s'est révélée un champ d'études fécond à la croisée entre plusieurs disciplines, interrogeant non seulement les représentations du droit, mais aussi les productions visuelles employées dans son exercice, et encore l'usage et les pouvoirs juridiques de l'image. Nous pouvons notamment citer à ce sujet les travaux du groupe de recherche Nomos der Bilder, dirigé par Caroline Berman, et le volume Images et droit, édité par Naïma Germani et Michel Danoville, qui analyse les usages historiques et anthropologiques des images juridiques et leur faculté à produire des effets de droit. Ma communication se propose d'aborder la question du droit d'image plutôt du point de vue de la législation qui pouvait le régir, en interrogeant sa définition et ses applications, la manière dont elle conditionnait la création artistique, mais aussi, en retour, la contribution que les images pouvaient avoir dans sa mise en place. Mon cadre d'analyse est le droit de représentation des souverains comme monarques régnants, non pas dans les territoires de leur couronne, où la présence de leur portrait était un fait attendu, mais plutôt en dehors de leur domaine de juridiction, une situation à vrai dire exceptionnelle. En effet, comme l'écrivait François Lemay en 1688, dans le chapitre intitulé « Du droit de statut » de son traité des statuts, je cite « On reconnaît ordinairement de qui dépend un lieu, soit à l'image du seigneur qui est élevé, ou à ses armes qui y sont attachées. » Déjà un siècle plus tôt, le cardinal Paleotti à Bologne, dans son discours autour des images sacrées et profanes, avait inclus les statues publiques parmi les insignes royaux, tels que la couronne, la pourpre, le sceptre, la salle royale et la parasplendide, relevant de la suprême dignité du prince chrétien de droit divin. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, le portrait figuratif du souverain avait été progressivement associé à son image héraldique dans la détermination visuelle de l'autorité souveraine sur le territoire, que ce soit par une peinture placée auprès du blason sous le dais de la salle du trône en l'absence du monarque, ou d'une sculpture associée à un blason sur le piédestal, érigée en monument public dans l'espace urbain. Ce dispositif de majesté souveraine qui marquait le territoire de la couronne, du sceau de sa légitime juridiction, était une prérogative exclusive du monarque régnant, qui pouvait tout au plus inclure des représentations des prédécesseurs de la dynastie, mais en aucun cas des images de souverains étrangers. Et dans ce contexte, Rome fait figure de véritable exception, car il s'agissait de l'unique lieu en Europe où l'on trouvait auprès du portrait de l'autorité régnante, à savoir le pape, nombre de portraits de souverains étrangers. La ville éternelle était alors dénommée Teatro del Mondo, parce que les équilibres et les tensions de la politique internationale s'y répercutaient sous forme de représentation dans le cadre du cérémonial pontifical qui déterminait la hiérarchie entre les diverses couronnes, ce qui ne manqua pas de donner lieu à de nombreux conflits de préséance, et notamment entre la France et l'Espagne et l'Empire. Sur cette scène, arbitrée par le souverain pontife, les monarques catholiques jouissaient d'un droit d'image en tant que fils et défenseur de l'Église. Leurs portraits trouvaient place non seulement dans leurs ambassades, mais aussi dans les palais de leurs cardinaux protecteurs et des familles alliées de la noblesse romaine, et encore dans les dépendances de leurs églises et couvents nationaux. Ils pouvaient être exposés en public, dans l'espace consacré des églises, ou sur les façades et les places urbaines, à l'occasion de fêtes profanes religieuses. Et s'il s'agissait généralement de peintures, de gravures ou de reliefs en matériaux éphémères, ils pouvaient parfois prendre la forme imposante de statues de marbre ou de bronze. Pour donner un premier aperçu des modalités de cette présence en image des souverains étrangers à Rome et des conflits de représentation qu'elle pouvait soulever, je vous propose de faire un tour sur la Piazza di Spagna au XVIIe siècle, la place qui doit son nom à la présence du palais de l'ambassade d'Espagne depuis 1620, donc le palais d'Espagne qui se trouve ici. Cette place qui était aussi connue comme Platea Trinitatis, du fait de la présence du couvent et de la Trinité et de l'église de la Trinité des Monts au sommet de la colline qui surplombait la place et qui était une fondation royale française. Sur la façade du palais d'Espagne, on voyait alors, comme d'ailleurs encore de nos jours, le blason du roi d'Espagne en compagnie de celui du pontife. Et ces blasons annonçaient les portraits que l'on pouvait trouver sous le dais de la salle d'apparat à l'intérieur du palais. En effet, dans ce lieu qui jouissait d'un statut extraterritorial, le portrait du roi d'Espagne pouvait être présenté en majesté comme représentation du monarque régnant, à condition toutefois d'être accompagné d'un portrait du pape, notamment lors des réceptions publiques. En février 1671, lors d'un banquet donné par l'ambassadeur ordinaire, le marquis d'Astorga, en l'honneur de l'ambassadeur extraordinaire, le vice-roi de Naples, Don Pietro d'Aragona, venu faire acte d'obéissance auprès du pape Clément X au nom du roi Charles II, les portraits du jeune souverain d'Espagne alors âgé de 10 ans et celui de la reine-mère et régente Marianne d'Autriche étaient situés sous un majestueux baldaquin de velours brodé d'or de part et d'autre du portrait du pape Clément X. Alors ici, j'ai essayé d'en refaire une reconstitution puisqu'on n'a aucune image du dispositif. À gauche, vous voyez la situation actuelle de la salle du trône dans le palais d'Espagne. Et dans le dispositif, donc, il y avait au centre le portrait du pape, à gauche le portrait de Charles II que les sources nous disent était figuré dans l'acte de commander, et à droite le portrait de la reine-mère et régente qui était représenté en train de signer des suppliques, donc ce qui correspond à l'iconographie des portraits de cour qui circulaient en 1670. Les sources nous disent en outre que le pape était figuré en train de bénir les rois, exprimant ainsi parfaitement leur mérite et la courtoisie du pontife, donc activant une sorte de dialogue entre les différents portraits placés sous le dais, qui était là pour signifier l'alliance entre la figure principale du souverain pontife et la figure du roi d'Espagne et de la reine-mère. Cette présentation du portrait du souverain auprès du pontife, régnant sous le dais de majesté, était un dispositif standard à Rome, tant dans les lieux administrés par les couronnes étrangères, comme les églises nationales, que dans les palais de leurs cardinaux protecteurs et des familles nobles alliées. Les fêtes données par les ambassades s'étendaient volontiers sur la place devant leur palais, sur laquelle elles jouissaient souvent de juridiction. Je vous en montre ici un exemple particulièrement spectaculaire à droite, qui nous est connu grâce à une extraordinaire série d'ophordes gravées par Claude Lorrain. Il s'agit d'une machine de feu d'artifice qui avait été érigée devant le palais d'Espagne dans une position semblable à celle qui sera érigée plus tard pour les fêtes de la naissance de l'infant Don Carlos. Dans le cas de la machine érigée en 1637 et reproduite par Claude Lorrain, celle-ci est érigée en l'honneur de l'élection de Ferdinand III de Habsbourg comme roi des Romains. La fête avait été organisée par l'ambassadeur du cousin du roi des Romains, donc le roi d'Espagne Philippe IV, à savoir le marquis de Castel Rodrigo. Cet édifice pyrotechnique, qui surgissait au centre de la place, avait la forme d'une forteresse munie de solides bastions, entouré de personnifications des quatre continents et couronné par l'aigle impérial. Son embrasement enfendit les murs jusqu'à les abattre complètement pour laisser place à un donjon flamboyant qui, à son tour, sous l'emprise des flammes, s'ouvrit pour dévoiler dans une lumière aveuglante un colosse équestre du nouveau roi des Romains, Ferdinand III. Le fracas de la poudre et l'éclat des feux retentirent alors une ultime explosion pour saluer la statue royale qui trônait désormais seule sur la place, du haut des bastions, lui servant de socle face à l'ambassade. La relation des fêtes que ces gravures illustraient décrit la dernière gravure que nous voyons à droite en ces termes un peu ampoulés. Je cite « Alors que la joie grandissait et que les cris redoublaient, le cheval entra dans le palais de Monsieur l'ambassadeur qui gardait déjà auparavant le grand roi des Romains sculpté dans sa généreuse poitrine et qui jouit maintenant avec son plus grand plaisir et l'allégresse de Rome tout entière d'avoir accueilli de façon ambitieuse sa statue dans sa propre maison. » Il est intéressant de remarquer que, de façon bien plus prosaïque, le chroniqueur romain Giacinto Gigli notait dans son journal à propos de cette fête, je cite, « que l'ambassadeur vint avec toute sa cour recevoir dans sa maison, avec des actes et des gestes de grande révérence, cet homme de chiffon qui représentait le roi des Romains. » Et l'érection d'un monument équestre d'un souverain étranger dans l'espace urbain de Rome n'était certes acceptable que parce qu'il s'agissait d'un homme de chiffon éphémère. Et on peut prendre la mesure de la véritable provocation que constituait alors l'ambitieux projet de l'escalier de la Trinité des Monts de l'autre côté de la place d'Espagne, voulu par Mazarin en 1660 pour commémorer la paix des Pyrénées entre la France et l'Espagne. Celui-ci prévoyait, au centre d'une rampe à double volée, une triomphale statue équestre en bronze de Louis XIV sur un cheval en levade, une figure d'une remarquable complexité technique. L'idée en était de Bernin, qui eut la prudence toutefois de ne pas apparaître officiellement dans le projet et laissa signer le dessin par l'abbé Elpidio Benedetti, fidèle agent de la couronne de France. Des recherches récentes ont montré que le dessin a été en réalité tracé par Plautilla Bricci, une des rares femmes architectes de son époque qui collaborait avec l'abbé Benedetti dans ses différents projets architecturaux. Dans une lettre à Mazarin, l'abbé Benedetti soutenait que cet emplacement convenait parfaitement au monument du fils aîné de l'Église, car en ce site, Sa Majesté était chez elle, de manière comparable que si elle était dans la cour d'un palais d'un ambassadeur. La comparaison de l'esplanade ouverte et publiquement accessible de la Trinité des Monts avec l'espace fermé et réservé de la cour du palais d'une ambassade était à vrai dire quelque peu tendancieuse. Certes, le couvent des Minimes était une fondation française et le coteau escarpé qui s'ouvrait au pied de son église constituait idéalement un large parvis. Mais les prétentions de la couronne de France sur la juridiction de cet édifice monastique, comme sur la propriété des terrains incultes en contrebas, étaient toutefois l'objet d'un ancien contentieux, toujours non résolu, avec l'autorité pontificale. L'idée de dresser un monument de Louis XIV en ce lieu qui dominait par son relief la topographie romaine et faisait face à la basilique Saint-Pierre constituait un véritable affront à l'égard du pape Alexandre VII Gigi, mais aussi du roi d'Espagne Philippe IV, dont l'ambassade romaine se trouvait au pied de la colline. Le colosse équestre aurait transformé la colline du Pincio en trophée des gloires du roi Soleil, confirmant sa position de force sur l'échiquier politique et militaire européen dans les années même où ses relations tendues avec le Saint-Siège remettaient en cause la suprématie du pouvoir pontifical. Les réactions du pape Gigi ne laissaient aucun doute. En décembre 1660, lorsque le projet lui fut soumis, il opposa un refus sans recours. Ce droit d'image était donc un instrument à double tranchant pour le pape, car s'il lui permettait d'affirmer visuellement la suprématie de son pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel des souverains catholiques, il risquait de porter atteinte à son autorité en cas de crise. Mais qu'en est-il plus précisément de ce jus imaginis des souverains catholiques à Rome ? À vrai dire, il n'y a pas de législation écrite qui le définisse. Il s'agit plutôt d'une coutume qui s'était établie progressivement à partir du XVIe siècle, dont on peut reconstituer les contours sur la base des témoignages sur les usages des portraits royaux disséminés dans différentes sources telles que les chroniques et les journaux, relations de fait et correspondances diplomatiques. L'autorité pontificale se prononçait sur la question uniquement en moment de crise politique, quand elle était obligée de trancher. Elle ne disposait pas d'un organisme dédié au contrôle des images, mais pouvait compter sur les compétences spécifiques de trois offices curiaux. Le Saint-Office pour les portraits des souverains hérétiques, le Maestro di Sacro Palazzo, qui exerçait un visa de censure sur tout texte ou image imprimé à Rome pour les portraits gravés, et enfin les maîtres des cérémonies pour l'exposition des portraits royaux dans le cadre des fêtes. À partir de quelques études de cas de conflit, je voudrais analyser les modes opératoires de ces différents offices, les contraintes qu'ils imposaient aux artistes et leur contribution à une codification progressive de ce droit d'image des souverains étrangers dans la ville éternelle. Mon premier exemple concerne les poursuites entreprises par l'Inquisition contre la diffusion des portraits d'Henri IV dans les années 1590-95, avant son absolution. On conserve à ce sujet un fascicule du tribunal du Saint-Office à la Bibliothèque nationale de France qui offre une fascinante tranche de vie sur la production et les marchés des portraits d'hommes illustres dans la Rome de la fin du XVIe siècle. En ces années-là, le roi de France, non reconnu par le Saint-Siège en raison de sa confession protestante, était privé de représentation diplomatique à Rome, mais ses intérêts étaient néanmoins officieusement servis par le duc de Luxembourg, François de Pinay, délégué de la noblesse française. Peu après son arrivée dans la ville éternelle, celui-ci s'était empressé de commander au graveur Philippe Thomassin, originaire de Troyes, de réaliser un portrait du souverain d'après une précédente estampe tirée d'un dessin du peintre de cour François Bunel. Le 22 mai 1590, informé du succès des troupes d'Henri IV dans leur marche vers Paris, le duc de Luxembourg se rendit en grande pompe au Vatican pour en faire part au pape Sixte Quint, et à son retour, certains de ses serviteurs exhibèrent l'estampe depuis les portières de leur carrosse devant la foule qui assistait au passage du cortège. Le jour même, un domestique du cardinal de Santa Severina, grand inquisiteur, dénonça au tribunal du Saint-Office l'existence de ce portrait et son exposition publique comme chose détestable. Il en donnait la description suivante. Je cite, « Le portrait tenait dans une demi-feuille de grandeur convenable et semblait gravé sur cuivre. Il montre un homme sec, avec un grand front, un long nez et une barbe de longueur moyenne, le chef découvert, un bâton dans la main et la poitrine armée. » Une enquête fut immédiatement ouverte et différents artisans de la place Navone qui avaient assisté à l'épisode furent interrogés, mais sans grand succès. Quelques jours plus tard, un billet anonyme révéla que le portrait était accompagné d'un distique latin qui signifiait « peint la piété, le foudre de guerre et la foi, tu auras peint le visage d'Henri et son esprit » et dénonçait le copiste Antoine qui habite près de Monsieur le cardinal de Saint-Georges. Ce copiste, actif à Parione, dénommé Antonio Duraforte et originaire de Chambéry, confirma le 2 juin aux inquisiteurs qu'il avait reçu 15 jours plus tôt la visite d'un graveur qui lui avait apporté un cuivre et 2 épreuves sur papier figurant le roi de Navarre et lui avait demandé d'insérer dans l'espace laissé vide à cet effet l'inscription de son titre royal et 2 vers en latin signifiant que, je cite, le dit Navarre était un foudre de guerre et de foi et que son effigie permettait de connaître son âme. Duraforte déclara qu'il avait cependant refusé. Il donna une description physique du graveur, son nom présumé, Filippo Uflaminio, et son lieu de résidence, la rue de l'Armata, entre la Via Giulia et le Tibre. Les sbires de l'Inquisition perquisitionnèrent immédiatement toute la rue, où de nombreux graveurs et orfèvres avaient boutique, et finirent par mettre la main sur la matrice en cuivre dans l'atelier de Philippe Thomassin, lequel était prudemment parti en pèlerinage à Lorette. Entre-temps, les agents avaient trouvé dans l'atelier du peintre pérugin Giovanni Domenico Angelini, près de Sant'Apollinare, un exemplaire de la gravure incriminée et l'ébauche d'un portrait peint d'Henri IV. Cité en justice, cet artiste qui gagnait sa vie grâce à une importante production de copies, de portraits et d'images de dévotion, déclara qu'à l'origine, il se refusait à peindre le roi de Navarre car on ne pouvait pas. Mais qu'ayant appris par une rumeur que le monarque allait être absous le jour de l'Ascension et qu'à cette fin le duc de Luxembourg avait déjà fait graver son portrait, il s'était procuré une de ses estampes pour la traduire sur toile et être prêt à répondre à la demande sûrement importante qu'aurait comporté un tel événement. Philippe Thomassin finit par entrer de Lorette sur conseil du duc de Luxembourg et se constitua au tribunal de l'Inquisition le 12 juin. En sa défense, il déclara qu'il avait accepté la commande car, en tant que ressortissant français, il était sujet du duc et que par ailleurs il avait réalisé sa planche sans connaissance de cause car l'identité du personnage figuré ne lui fut révélée qu'après la livraison des premiers tirages. Il prétendit ensuite n'avoir inséré aucune inscription à l'exception du nom du peintre François Bunel. Il se rendit toutefois rapidement compte que les inquisiteurs étaient bien informés et alors il se remémora tout à coup que le duc lui avait demandé d'ajouter des vers en latin dont il ignorait la signification. Angeline et Thomassin furent écroués, mais ils obtinrent la grâce pontificale le 17 juin à la suite de l'intervention du duc de Luxembourg auprès de Sixte Quint. Il est ici intéressant de remarquer que le commanditaire ainsi que les récipiendaires des portraits ne furent pas inquiétés et seuls les artistes furent poursuivis, leurs œuvres brûlées l'année suivante dans la cour du palais du Saint-Office, alors que la chasse aux images de celui que l'Inquisition définissait Henri de Bourbon, jadis roi de Navarre, hérétique et persécuteur de l'Église romaine, avait redoublé de vigueur sous le bref pontificat de Grégoire XIV. Il reste cependant une trace de l'œuvre de Thomassin dans une gravure incluse à l'intérieur du fascicule du tribunal de l'Inquisition et que vous voyez sur l'écran. Celle-ci correspond précisément aux descriptions des témoins, mais elle est dépourvue du distique latin. Elle porte en outre la signature de Giovanni Battista Mazza, un graveur documenté à Venise, à la fin du XVIe siècle. Il s'agit vraisemblablement d'une dérivation de la planche de Thomassin qui atteste de sa circulation. Elle fait partie d'un lot de gravures réquisitionnées en 1591 et 92 par les inquisiteurs de Gênes et de Vicence et envoyées au Saint-Office à Rome. Il y avait un autre exemplaire plus modeste qui était tiré et la gravure que vous voyez à gauche est arrivée à Rome déchirée en petits morceaux. Elle s'est ensuite recomposée sur la page. D'après les documents conservés, le problème que posait le portrait du monarque protestant ne relevait pas tant de la représentation de ses traits, que les sbires de l'Inquisition avaient d'ailleurs encore du mal à identifier, mais plutôt de leur association avec ces titres très faux contre la déclaration du Saint-Siège apostolique, à savoir le titre de roi de France et de Navarre. À ce qu'on peut aussi ajouter, les qualificatifs de foudre de guerre et exemple de piété et de foi qui avaient dû bien offusquer les officiers du Saint-Office. En dehors des cas d'hérésie, le contrôle des portraits gravés relevait de la charge du maestro del Sacro Palazzo, qui contrôlait le visa de censure sur toute publication imprimée à Rome. Les archives de cet important office demeurent à ce jour non localisées et l'on ne peut reconstituer le fonctionnement que de façon fragmentaire. Il apparaît en tout cas que le contrôle des gravures qui circulaient à Rome était loin d'être administré de façon centralisée et systématique. Les infractions étaient souvent signalées par les partisans nationaux des camps adverses qui ne cessaient de se surveiller les uns les autres. Ainsi, en 1641, lors de la révolte de Portugal contre la domination des Habsbourg d'Espagne, qui avait élevé le duc de Bragance au titre royal de Jean IV, Dirk van Ameyden, agent des Habsbourg à Rome, dénonçait au maître des palais pontificaux la diffusion dans la ville d'une estampe insidieuse figurant l'arbre généalogique des portraits du roi de Portugal, accompagnée d'infâmes inscriptions, donc à savoir la définition du duc de Bragance comme roi Jean IV de Portugal. Cette estampe officiellement provenait de Lisbonne, mais plus probablement avait été imprimée à Rome et sans licence. En 1649, Ameyden saisissait à nouveau les autorités pontificales après avoir vu juste en bas de chez lui des gravures hollandaises et françaises représentant les figures de Bragance et de sa femme avec le titre et la couronne de roi de Portugal. Alors ces gravures n'ont pas été identifiées, mais je vous montre pour vous donner une idée du type de gravure produite dans le nord de l'Europe qui pouvait circuler de façon disons, peu officielle à Rome, une gravure réalisée à Londres qui montre le duc de Bragance couronné roi de Portugal, Jean IV, couronné par la paix et la justice, un genre de gravure qui, évidemment, pouvait offusquer les partisans du roi d'Espagne à Rome. Ahmed ne faisait plus appel à la juridiction qui réglementait la publication des stampes à Rome, mais à l'interdit d'exposer des simulacres et effigies de tyrans et d'envahisseurs. Et il obtint apparemment l'approbation du pontife. Il avait d'ailleurs, par prudence, réquisitionné toutes les gravures de façon à les soustraire à la curiosité du public. Le maître des palais pontificaux pouvait aussi refuser le visa d'impression au portrait d'un souverain légitime représenté avec des insignes inappropriés à sa dignité. En 1699, le cardinal de Bouillon informa Louis XIV qu'il n'avait pu obtenir la licence de graver la statue du roi que le prince Vaini avait commandée à Domenico Guidi, qui se trouve aujourd'hui dans l'escalier d'entrée de la Villa Médicis, parce qu'elle figurait le souverain, je cite, « avec le monde sous les pieds et une couronne de laurier sur la tête, sous prétexte que l'empereur est le seul en possession d'être représenté ici avec cette couronne ». Le prince Vaini, l'un des plus fidèles partisans du roi Soleil à Rome, avait commandé cette statue pour son propre palais, afin de signifier sa gratitude envers les nombreuses faveurs reçues, mais aussi attendues, du roi en ces années, parmi lesquelles le collier de l'ordre de Saint-Michel. L'ambassadeur impérial, comte de Martinis, n'avait pas manqué d'informer son souverain Léopold Ier de la réalisation de ces statues qui conféraient au roi de France des attributs de souveraineté réservés à saisir à l'empereur, et non seulement la couronne de laurier et le globe sous les pieds, mais aussi le lion qu'il identifiait comme l'emblème héraldique de la Bohème. À vrai dire, comme l'a montré Hendrik Ziegler, cette peau de lion pourrait bien être plutôt la dépouille du lion d'Espagne. Mais en tout cas, la question était grave et l'ambassadeur impérial avait fait parvenir au sculpteur un billet anonyme le menaçant, je cite, de terminer la statue dans l'autre monde. Domenico Guidi prit peur et abandonna l'ouvrage qui fut terminé par un sculpteur français, sans doute un pensionnaire de l'Académie de France, dont le nom est eu par les sources. La réalisation des statues royales était un exercice bien périlleux dans la ville éternelle, comme l'enseignaient d'ailleurs deux précédents célèbres, les sculptures de bronze d'Henri IV et de Philippe IV, érigées à titre de bienfaiteurs de l'Église, dans les basiliques protégées par leur couronne, respectivement Saint-Jean de Latran pour la France et Sainte-Marie-Majeure pour l'Espagne. Le sculpteur lorrain Nicolas Cordier et le fondeur romain Gregorio De Rossi furent tourmentés par les agents espagnols alors qu'ils travaillaient à la réalisation de la statue d'Henri IV que les chanoines du Latran, appuyés si ce n'est incités par le marquis d'Alincourt, ambassadeur de France, avaient décidé de dresser en l'honneur du monarque en 1606 pour le remercier du don de l'abbaye de Clairac. Les chanoines étaient parvenus à obtenir l'autorisation du pape Paul V Borghese, qui en ces années-là, d'âpres tensions avec Venise, avait besoin du soutien de la médiation d'Henri IV. Mais face aux protestations indignées des agents espagnols, le pape se rétracta et prétendit avoir compris que le projet concernait un portrait de peinture à placer dans la sacristie, et non pas une sculpture à placer dans la loggia des bénédictions. Le monument, au lieu d'être un triomphe élevé à votre majesté à la porte de la principale église de la chrétienté, comme l'avait annoncé l'ambassadeur au roi, finit par être installé en 1609 dans une pièce sombre, certes adjacente à la loggia des bénédictions, mais uniquement visible par une fenêtre au grillage très serré. Donc cette pièce se trouve encore ici, et une petite fenêtre avait été ouverte donc dans le mur pour pouvoir la voir en entrant dans la loggia des bénédictions, mais comme devait le commenter l'écrivain anglais John Evelyn lors de sa visite à Rome en 1644, elle n'était qu'un « dark hole », un trou noir. En réponse au monument royal du Latran, la basilique rivale de Sainte-Marie-Majeure conçut le projet d'ériger sous son portique une statue du roi d'Espagne, Philippe IV, dont elle avait reçu une très généreuse donation en 1647, l'Opéra Pia d'Espagne. Le projet traîna jusqu'à la paix des Pyrénées, quand les cardinaux hispanophiles Rospigliosi, archiprêtre de la basilique, et Astalli, secondé par le nouvel ambassadeur d'Espagne à Rome, Pedro Antonio de Aragon, en poussèrent la réalisation avec zèle. Le dessin fut confié à Bernin, qui choisit encore une fois de rester prudemment dans l'ombre. Nous sommes dans les mêmes années du projet de l'escalier de la Trinité des Monts. Et le contrat fut signé par le chapitre en 1664 avec son élève, le fondeur Girolamo Lucenti. La statue était prête l'année suivante, au moment du décès du roi, et fut entièrement terminée et polie en 1666, mais elle devait demeurer de nombreuses années dans l'atelier du sculpteur, loin du regard du public, parce qu'en raison des manœuvres des agents français, les chanoines ne parvenaient pas à obtenir l'autorisation pontificale pour l'ériger. Ils finirent en fait par profiter d'une période de siège vacant, en 1691 à la mort d'Alexandre VIII, pour la dresser, mais non pas en pleine lumière dans le portique de la basilique, comme cela était initialement prévu, comme vous voyez aussi sur le dessin à gauche, mais dans l'espace plus discret du vestibule de leur sacristie, où étaient réunis une série de portraits peints des bienfaiteurs de la basilique. La statue de Louis XIV par Domenico Guidi s'inscrivait par son iconographie à l'antique dans la lignée des précédents monuments d'Henri IV et de Philippe IV. Elle présentait un cas toutefois différent, car elle n'était pas destinée à une basilique sous juridiction pontificale, mais à l'espace privé d'un palais de la noblesse romaine. Les autorités pontificales ne pouvaient dès lors guère intervenir sur les attributs de la statue, ni sur les modalités de son installation, mais elles étaient en revanche en mesure d'en empêcher la diffusion, en n'octroyant pas la licence de la reproduire. L'interdiction n'eut à vrai dire qu'un effet limité, car le cardinal de Bouillon chargea alors un graveur français de réaliser une estampe afin d'offrir à son souverain un témoignage de la fidélité du prince Vaini. On voit ici se répéter le schéma où les agents français déjouent la surveillance pontificale en employant des artistes sujets de la couronne de France, dont le vivier s'était remarquablement enrichi depuis la fondation de l'Académie de France à Rome en 1666. J'en viens à mon dernier exemple qui concerne la supervision de l'exposition des portraits royaux dans le cadre des festivités religieuses ou profanes par les maîtres de cérémonie pontificale. Alors il s'agit d'un cas qui touche moins directement à la création artistique, car on exposait habituellement des portraits déjà disponibles dans les collections. Mais la question demeure cependant très intéressante, parce qu'ayant soulevé de nombreux conflits, elle finit par pousser les maîtres de cérémonie à établir quelques règles par écrit, traçant une première codification du droit d'image des souverains catholiques à Rome. Les exemples sont nombreux, mais l'un des plus significatifs date des premières années de la guerre de succession d'Espagne. Comme c'est bien connu, la guerre entre les deux prétendants à la couronne d'Espagne, Philippe V de Bourbon et l'archiduc Charles III d'Autriche, déclenchée par la mort sans héritier du dernier des Habsbourg d'Espagne, Charles II en 1700, se traduisit à Rome par une véritable guerre des portraits. Le parti franco-espagnol et celui impérial cueillaient chaque occasion pour exposer et diffuser les portraits de leurs souverains en habits royaux, se heurtant plusieurs fois au pape Clément XI Albani, qui tentait désespérément de maintenir une position de neutralité. Suivant le cours des avancées militaires, ce conflit figuratif se déployait dans les églises nationales des territoires des Habsbourg d'Espagne et parvint à son acmé en 1706, quand les troupes impériales entrèrent à Milan. Pour la fête de la Saint-Charles-Borromée, célébrée le 4 novembre, la faction impériale prétendait alors exposer le portrait de l'empereur Joseph Ier à la place de celui de Philippe V, dans l'église romaine de la nation lombarde, Sant'Ambrogio Carlo al Corso. L'ambassadeur d'Espagne, Duc d'Uzeda, indigné par un tel procédé, d'autant plus que le château de Milan et différentes villes du duché étaient encore aux mains des Espagnols, demanda audience à Clément XI. Grâce à un mémorial inédit du maître de cérémonie pontificale Candido Cassina, nous avons des informations précises sur la nature de cet entretien et sur les mesures prises par Clément XI. Le duc d'Uzeda signifia au pape que le Saint-Siège n'avait jamais autorisé de tels changements de cérémonial quand les conflits étaient en cours. En s'appuyant sur les précédents de Saint-Antoine des Portugais, de Saint-Claude des Bourguignons et de Saint-Nicolas des Lorrains, il le suppliait de maintenir l'ordre habituel pour la fête de la Saint-Charles et de permettre ainsi l'exposition du portrait de Philippe V. Clément XI lui assura, je cite, qu'il aurait pris toutes les mesures possibles de sorte que la guerre, s'il ne pouvait l'empêcher ailleurs, ne se fasse au moins pas à Rome. Il lui rappela cependant que la coutume d'exposer le portrait du duc de Milan au Sant'Ambrogio Carlo était récente, inaugurée apparemment sous le règne de Charles II, et avait pris pied suite à une négligence de contrôle des autorités. La légitimité de cette pratique était d'ailleurs discutable, puisque l'Église n'appartenait pas au seul duché de Milan, mais à toute la nation lombarde. Clément XI ne pouvait donc pas se prononcer pour son maintien, car il aurait officialisé un état de fait qui n'avait jamais reçu l'approbation pontificale. L'ambassadeur, fort mécontent, rétorqua que la suppression du portrait ducal des décors de la fête aurait été interprétée comme l'effet de l'invasion des impériaux, je cite, de telle sorte que contre toutes les règles et contre la pratique invétérée du Saint-Siège, on aurait fait avec l'autorité de celui-ci un acte à Rome par lequel on aurait réputé que le roi catholique était privé de l'état de Milan, non seulement avant la conclusion de la paix, mais alors qu'il n'en avait pas encore été dépouillé par ses ennemis. Le pape congédia l'ambassadeur en remettant sa question à plus tard et chargea sur le champ ses maîtres de cérémonie d'examiner les documents historiques sur les précédents que le diplomate avait évoqués. Et sur la base de leurs archives, ceux-ci rédigèrent alors un rapport détaillé. Il résultait qu'à Saint-Antoine des Portugais, en 1642, pendant la révolte contre l'Espagne, Urbain VIII avait réglé le problème en suspendant la fête, une mesure restée en vigueur jusqu'à la paix signée en 1668. À Saint-Nicolas des Lorrains, le portrait du duc Charles IV continua d'être exposé plusieurs années après l'occupation du duché par l'armée française, de même qu'à Saint-Claude des Bourguignons, le blason d'Espagne demeura longtemps sur la façade après la prise du duché par la France, sans doute par négligence et en tout cas sans inquiéter leur autorité pontificale. À l'évidence, au début du XVIIIe siècle, il n'existait pas de véritable législation sur l'exposition des portraits royaux dans les églises nationales, et l'usage instauré par la coutume était susceptible d'applications variables, selon les circonstances. La règle invoquée par l'ambassadeur d'Espagne, d'après laquelle l'ordre du cérémonial devait demeurer inchangé pendant les périodes de conflits militaires jusqu'à la ratification du traité de paix, était donc infondée. Elle relevait davantage d'une interprétation personnelle du diplomate, qui essayait coûte que coûte de maintenir les positions sans cesse menacées de son souverain dans les différentes églises nationales de l'ancien empire des Habsbourg d'Espagne. Le 31 octobre 1706, la Congrégation d'État décréta l'interdiction d'exposer tout portrait dans l'église de la nation des Lombards, ne laissant place qu'aux armoiries du pontife. Une solution moyennement satisfaisante. Et Clément XI fit part le lendemain au maître de cérémonie Cassina de son idée de présider la Saint-Charles dans la chapelle, dans l'église des Lombards par l'instauration d'une chapelle pontificale. Et le maître des cérémonies approuva pleinement une telle décision car la présence du pontife en majesté excluait toute exposition de portraits, ce qui réglait définitivement le contentieux sans que les camps adverses puissent se sentir lésés ou favorisés. L'épisode de Sant'Ambrogio Carlo al Corso était ainsi extrêmement instructif pour comprendre la position du portrait à l'intérieur du cérémonial ainsi que la valeur qui lui était attribuée. En premier lieu, il apparaît que le portrait n'était pas à l'origine inclus dans les cérémonies nationales mais fut progressivement introduit auprès du blason, donnant un visage figuratif à l'image héraldique, un processus qui se fit sans bruit et qui s'imposa par coutume, sans que les autorités pontificales n'y prêtassent une attention particulière. Or, sans l'approbation du pape, cet usage ne donna pas lieu à une codification écrite. C'est uniquement dans les périodes de conflits politiques, quand l'ordre du cérémonial était remis en question, que des règles furent fixées de façon textuelle. Et on voit ici que le jus imaginis oscille entre une pratique sociale qui demande à être entérinée et une législation qui se construit sur la base de textes normatifs précédents. En conclusion, je voudrais mentionner comment les stratégies politiques qui accompagnaient l'importante diffusion des portraits des souverains catholiques à Rome évoquent inévitablement aujourd'hui la notion de propagande. Usage fort discuté de ce terme anachronique demande toutefois une approche critique de façon à ne pas oblitérer les nuances du phénomène historique analysé. Si l'on revient aux sources de l'étymologie du terme, qui fut forgé dans le contexte religieux de l'institution de la congrégation missionnaire romaine De Propaganda Fide, propaganda, adjectif verbal du latin propagare, signifie littéralement ce qui doit être propagé et suggère la diffusion d'une idée non encore acquise, ainsi que l'œuvre de persuasion pour la faire accepter. Si l'on considère les exemples que nous avons parcourus, il apparaît clairement que les efforts financiers et diplomatiques soutenus par les ambassadeurs et représentants des différentes couronnes pour mettre en lumière l'image de leur souverain dans des lieux clés et de grande visibilité de la ville éternelle répondaient à une volonté de convaincre de l'influence prépondérante du royaume qu'il servait et de son importance centrale sur l'échiquier politique européen. En ce sens, ces démonstrations rentrent pleinement dans la définition de propagande, notamment dans le cas de Louis XIV, qui tenta de plier le Saint-Siège à sa propre force politique et militaire. Cependant, l'emploi du terme propagande risque d'occulter l'autre face de la médaille de cette stratégie des images, qui, avant même de vouloir convaincre, cherchait surtout à être formellement acceptée. La possibilité d'exposer leur portrait sur le théâtre romain constituait pour les monarques catholiques un droit, et l'exercice de ce droit marquait la reconnaissance de leur souveraineté légitime de la part du pontife. À chaque fête politique, la présentation du portrait du roi auprès de celui du pape sous le dais confirmait la relation privilégiée entre la couronne et le Saint-Siège, une relation qui s'exprimait à deux voix. Et de ce double aspect qui constituait le fondement de la question du droit d'image des souverains catholiques à Rome, l'acception contemporaine du terme de propagande ne peut entièrement rendre compte. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.